consequence of serving ourselves.
Propriété et le cortège inséparable de l'inégalité naissante. C'est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur force ou de leur besoin une sorte de droit au bien d'autrui, équivalent, selon eux, à celui de propriété, l'égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre. C'est ainsi que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les passions effrénées de tout étouffant la pitié naturelle et la voix encore faible de la justice rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Dans une concorde éternelle. Politique, ils n'avaient pas assez d'expérience pour en prévoir les dangers. Les plus capables de pressentir les abus étaient précisément ceux qui comptaient en profiter. Et les sages même virent qu'il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l'autre, comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps. Et des lois qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le profit de quelques ambitieux assujettiront désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère. sortir bientôt des inconvénients qui avaient forcé les particuliers d'en sortir, et cet état devint encore plus funeste entre ces grands corps qu'il ne l'avait été auparavant entre les individus dont ils étaient composés. De là sortirent les guerres nationales, les batailles, les meurtres, les représailles qui font frémir la nature et choquent la raison, et tous ces préjugés horribles qui placent au rang des vertus l'honneur de répandre le sang humain. Les plus honnêtes gens apprirent à compter parmi leurs devoirs celui d'égorger leurs semblables. On vit enfin les hommes se massacrer par milliers sans savoir pourquoi. Et ils se commettaient plus de meurtres en un seul jour de combat et plus d'horreur à la prise d'une seule ville qu'ils ne s'en étaient commis dans l'état de nature durant des siècles entiers sur toute la face de la terre. Tels sont les premiers effets qu'on entrevoit de la division du genre humain en différentes sociétés. Sauvage et l'homme policé différent tellement par le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait le bonheur suprême de l'un réduirait l'autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et la taraxie même du stoïcien n'approche pas de sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, le citoyen toujours actif s'agite, se tournant sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses, il travaille jusqu'à la mort. Il y court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l'immortalité. Sorte d'hommes qui comptent pour quelque chose les regards du reste de l'univers, qui savent être heureux et contents d'eux-mêmes sur le témoignage d'autrui plutôt que sur leur propre. Telle est, en effet, la véritable cause de toutes ces différences. Le sauvage vit en lui-même. L'homme sociable toujours hors de lui ne fait vivre que dans l'opinion des autres. Et c'est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence. Demandant toujours aux autres ce que nous sommes et n'osant jamais nous interroger là-dessus nous-mêmes, au milieu de tant de philosophie, d'humanité, de politesse et de maximes sublimes, nous n'avons qu'un extérieur trompeur et frivole, de l'honneur sans vertu, de la raison sans sagesse et du plaisir sans bonheur.